Chapitre 26. On voit bien des mariages comme cela. Jeannette, d'après une circonstance du récit de sa mère, pressentit le but des ordres qu'elle devait lui prescrire. Mais elle n'y fit pas beaucoup d'attention pour le moment. Attendrie des événements rapides et singuliers qu'on venait de retracer, émue du souvenir de son amie Cécile, victime sans doute d'un ordre arbitraire, Jeannette ne pensa toute la nuit qu'à l'infortunée d'Hérenville. Elle se leva, s'habilla à la hâte et fut rejoindre sa mère, qu'elle trouva prête. « Partons, ma fille, lui dit madame d'Héricourt, ne perdons pas de temps, car il nous faut revenir demain ici. Après-demain, j'attends de la compagnie. » Elle sourit, des parents que tu seras sans doute charmée de connaître. Jeannette et sa mère montent dans la chaise de poste qui vole à Paris, où elles arrivent un peu avant la nuit. Elles se rendent soudain au logis de Cécile, où elles n'apprennent de la bouche de l'hôtesse que ce que cette femme leur avait marqué dans sa lettre. Madame Aubry n'en savait pas davantage. Jeannette se fait répéter toutes les circonstances de l'enlèvement de son amie. Elle apprend que Cécile s'est écriée en suivant l'exemple « Ah, Jeannette, que n'es-tu témoin du malheur de ton amie ?» Jeannette verse des larmes et se retire désespérée. Le lendemain matin, elle court avec sa mère chez plusieurs magistrats qui ignorent ou feignent d'ignorer le sort de Cécile. Et l'après-midi, après avoir épuisé tous les moyens d'être éclairée, la mère et la fille repartent pour Chartres, où les suivent la douleur et le regret. Madame d'Héricourt employa mille moyens pour calmer la douleur de sa fille. Elle ne put que l'étourdir, Jeannette resta inconsolable. Le lendemain de leur retour, madame d'Héricourt dit à Jeannette « Ma fille, ma chère Jeannette, tu as vu que j'ai fait tout mon possible pour t'aider dans ta recherche. Je me suis prêtée à tes moindres vœux. Ils prouvaient ta reconnaissance pour ceux dont tu as reçu des bienfaits. Ils ne pouvaient que me plaire. À présent, mon enfant, qu'il ne te reste aucun espoir de découvrir les traces de ton ami, attends tout du temps. Fais comme ta mère, qui a passé 28 années loin de sa fille, sans espérance de jamais la retrouver, et qui, cependant, vient d'obtenir cette faveur du ciel. Il est dans la vie, Jeannette, des événements si extraordinaires que toute la prudence humaine ne peut ni les calculer ni les prévoir. Il n'y a que ceux qui n'ont rien éprouvé, qui doutent des caprices du sort. Nous les connaissons, nous deux, Jeannette, et nous nous attendons à tout pour n'être pas surprises. Ah ça, ma Jeannette, il faut que je te parle d'autre chose. Je t'ai dit, je crois, que Jules de Briceval avait emmené son jeune neveu en Amérique. Ils sont revenus en France depuis quelques années. J'ai revu mon neveu, mais ce neveu n'est plus un enfant. C'est à présent un jeune homme de 30 ans, grand, bien fait et très aimable. Jules et son neveu ont profité des nouvelles lois pour faire casser le jugement injuste rendu autrefois contre Briceval, et ils sont parvenus à faire réhabiliter sa mémoire. En conséquence, ils ont repris leur véritable nom et ce sont eux que j'attends aujourd'hui. Je lisais la lettre qui m'en donne l'assurance au moment même où Bernard est venu m'apprendre que j'allais embrasser ma fille. Jeannette, je te recommande ce jeune homme. Rappelle-toi que son père n'a été malheureux que pour avoir approuvé mon union avec le tien. Souviens-toi que Briceval, en mourant, ordonna à son fils de te donner la main, que je lui promis ton aveu pour cet hymen, et qu'ainsi, dès l'enfance, le jeune Briceval et toi, vous êtes destinés à devenir époux. Ne m'as-tu pas dit toi-même que chez M. d'Hérenville, tu nommais le petit Briceval ton petit mari ? Heureux pressentiment du lien qui devait un jour vous unir. Il va venir, Jeannette. Il sait, ainsi que son oncle, que j'ai eu le bonheur de te retrouver. Je leur ai fait savoir cette heureuse nouvelle par un exprès que j'ai envoyé au-devant d'eux. J'exige de toi, mon enfant, que tu t'habitues, dès aujourd'hui, à regarder ce jeune homme comme ton futur époux. Jeannette, tu ne réponds rien. Ton cœur est libre, tu me l'as assuré. Ma mère, il est vrai, mais son cœur l'est-il ? Mon neveu ? Oh, je te réponds de son cœur. Je n'ai jamais entendu dire qu'il se soit donné à une autre. Sois tranquille sur ce point. Eh bien, aurais-je de la peine à obtenir de toi la promesse que je désire ? « Madame, j'ai toujours fui les liens de l'hymen. C'est pourtant le but de toute personne honnête et vertueuse. À mon âge, madame, à 28 ans, c'est bien tard. Tu n'en sentiras que mieux le bonheur conjugal. Et quoi, à peine ai-je le bonheur d'embrasser ma mère, qu'elle me presse de me séparer d'elle ? Jamais, non, mon enfant, jamais je ne vous quitterai, toi et ton époux. Nous vivrons ensemble, et peut-être avant de mourir, aurai-je le bonheur de te voir mère à ton tour. Oh, donne-moi cette satisfaction !»« Madame, permettez-moi de vous objecter. Jeannette, songe donc que je suis engagée par un serment fait à un homme expirant, dont les dernières volontés doivent être respectées. J'aurai peine, ma fille, à user des droits que j'ai sur vous. » Ce n'est qu'à la dernière rigueur que je prendrai sur moi de vous dire « Je l'exige, je le veux. » Jeannette se jeta sur une main de sa mère qu'elle couvrit de baisers. « Bonne mère, lui dit-elle, vous ne serez point frustrée dans votre attente. Tant de bonté me pénètre, oui, je vous obéirai. Pour peu que mon cousin ne me déplaise pas trop, je l'épouserai. » « Oh, il te plaira, c'est un cavalier charmant. » Il sait aussi qu'il va voir en toi son épouse, il en est enchanté. Soyez donc sûre, ma mère, de la soumission de votre fille. Mais Cécile, madame, Cécile, est-ce au moment où l'amitié est noyée dans les larmes que je dois allumer les flambeaux de l'hymen ? Et ses pleurs recommencèrent à couler. La bonne madame d'Héricourt s'empressa de les essuyer, elle embrassa sa fille un peu calmée et l'on annonça messieurs de Briceval. À ce nom, Jeannette tressaillit. Elle voit entrer un vieillard assez gros et court, mais vif et d'une physionomie gaie. « Voilà l'oncle, se dit Jeannette. » Pour le neveu, il lui parut bien au-dessus de l'éloge que madame d'Héricourt en avait fait. Grand, bien fait, doué de toutes les grâces et d'un ton excellent, son seul aspect décida sur le champ Jeannette en faveur de l'hymen projeté. « Nous voilà, ma sœur, dit l'oncle à madame d'Héricourt. « Mais est-ce là ma nièce, Jeannette, cet enfant d'un frère infortuné ?»« Vous la voyez, mon frère. » Briceval poursuit l'oncle. « Tiens, mon ami, regarde donc ta cousine. Est-elle aimable, hein ? Corbleu, que tu vas être heureux. Mais tu la regardes là ? Embrasse-la donc, Nigo. À ton âge, est-ce qu'on m'aurait dit ces choses-là ? » « Mon oncle, répondit le jeune homme avec douceur, c'est une faveur qu'il faut mériter avant d'oser même la demander. »« Je suis charmé, interrompit madame d'Héricourt, que vous trouviez ma fille aimable. Eh bien, ses attraits ne sont rien en comparaison des vertus de son cœur. Qu'il sera heureux, celui qui possédera une épouse aussi intéressante. » Briceval soupira et leva les yeux au ciel. Son oncle, sa tante et Jeannette elle-même se persuadèrent que ce soupir était l'effet de l'idée du bonheur dont il allait jouir. « Mais vous vous portez bien, mon frère, » dit madame d'Héricourt au gros Jules. « Je vous trouve encore engraissé depuis quelques mois que je ne vous ai vu. D'où venez-vous comme cela ?»« Bah, ne m'en parlez pas, ma sœur. Je viens de m'ennuyer à la campagne d'une folle qui m'avait prié d'y diriger quelques travaux. » Mon neveu était chez elle, à Paris, pendant ce temps. J'ai fait revenir mon jeune homme. Mais dès que j'ai su que la maîtresse de maison le suivait, crac, je suis parti, et me voilà. Toujours gai, toujours le même. Que voulez-vous, ma sœur ? J'ai perdu mes dignités, mes croix, une partie de ma fortune. Eh bien, je m'en console en pensant que tout cela est sans doute pour le bien général, et je ris, et je bois toujours. « Vous faites bien, j'ai fait une visite à ma cave exprès pour vous. J'ai mis à part des vins. »« Tant mieux, c'est le trait d'une bonne sœur. Je suis d'avis que nous en fassions sur le champ l'examen. »« Volontiers. » Madame d'Héricourt sonne. On apporte à déjeuner et pendant que l'oncle boit et rit, Jeannette et son cousin s'examinent avec timidité, sans oser se dire un mot. Cependant, il semble à Jeannette qu'elle a vu ce jeune homme-là quelque part. Et, de son côté, Briceval ne sait s'il n'a pas rencontré Jeannette dans une de ses sociétés. Ils se communiquent réciproquement ce doute et ne peuvent deviner où ils se sont vus. Au reste, Jeannette est enchantée de son cousin, quoiqu'il paraisse un peu froid et mélancolique. De son côté, le cousin trouve la cousine fort aimable et ces jeunes gens paraissent bientôt s'entendre très bien. Jules et Madame d'Héricourt sont enchantés de voir leurs enfants réunis. La journée se passe en félicitations réciproques et tout le monde est content. Tout le monde, ai-je pu généraliser ainsi la satisfaction qui ne brille pas également sur tous les visages ? Briceval est mélancolique, il est honnête, galant même avec sa cousine, mais ressent-il pour elle autant de tendresse qu'elle commence à en éprouver pour lui ? Jeannette pense aussi sans cesse à son amie et ce seul souvenir trouble le plaisir qu'elle doit avoir d'un changement d'état aussi heureux pour elle. Cependant, la dissipation, l'idée de son mariage, les tendres consolations de sa mère, tout fait quelques diversions à sa douleur et un mois s'écoule en fête, en plaisir, en préparatif d'hymen. Car tout est arrangé, décidé, entre les parents et les jeunes gens. Il n'y a eu pour cela que deux mots de dix entre eux. « Mon cousin, je me fais un devoir de remplir le vœu de ma mère. » Ma cousine, l'ordre de mon père est encore présent à ma mémoire. Voilà ce que se sont dit Jeannette et Briceval. Briceval, il a souvent de fréquents entretiens avec son oncle et il en sort toujours les larmes aux yeux, tandis que la colère sillonne le front du vieillard. Quel est donc le sujet de leur secrète conversation ? Jeannette le demande à sa mère l'ignore comme elle. Madame d'Héricourt en parle à Jules Briceval. Jules lui répond que ce n'est rien, sinon quelques reproches qu'il fait à son neveu de ses anciens tours de jeunesse, et voilà tout. Enfin, tout est arrangé. Il est décidé que le mariage des jeunes gens se fera à Chartres et que tout le monde ira ensuite passer l'hiver à Paris, où Madame d'Héricourt a du bien. Cette bonne mère est charmée de faire jouir ses enfants des plaisirs que cette grande ville offre dans cette saison. Jeannette y va paraître d'ailleurs dans l'état le plus brillant et il faut qu'elle jouisse de tous les privilèges de son état et de sa fortune. Madame d'Héricourt, en faveur de cet hymen, a doté sa fille de deux ou trois fermes et d'une bonne terre. Elle a de plus un hôtel à Paris. Jeannette est riche au-delà de ses souhaits et cependant, Jeannette n'est pas contente. Dans le silence de ses nuits, fatiguée des divers plaisirs qu'elle a goûtés dans sa journée, elle se dit « Pendant que je jouis de toutes les aisances de la vie, mon ami souffre et pleure peut-être dans l'horreur d'une prison. Ingrate que je suis, étourdie du chaos des visites, tout entière à la société de mes parents, qui ne me laisse pas un moment de repos, j'oublie Cécile, à qui j'avais promis une amitié constante, que je devais venir retrouver, que je n'avais quittée que dans le projet d'adoucir son infortune. » Cécile, elle m'est ravie, elle accuse peut-être Jeannette, et Jeannette peut-elle s'arracher des bras de ceux à qui elle est si chère pour aller chercher son amie ? Où, grand Dieu ? Sort injuste et barbare, nous as-tu séparés pour jamais ? Ne reverrai-je jamais l'amie de mon enfance, Cécile, que je rendrai aujourd'hui si heureuse ? Que dis-je ? Elle ne peut l'être désormais. Loin de son amant, loin de son fils, Cécile, cachons à jamais ce fatal secret, que cette faute de mon amie ne sorte point de son cœur ni du mien. Ne couvrons point son nom du cachet du déshonneur. Elle en souffre assez, l'infortunée. » Ainsi, Jeannette pensait souvent à Cécile, mais elle allait à Paris, et c'était moins les fêtes de ce séjour brillant qui souriait à son imagination que le désir de chercher Cécile, de s'informer d'elle et de parvenir peut-être à s'en procurer des nouvelles. Il lui semblait que, dans le séjour que Cécile avait habité, Jeannette aurait moins de peine à la rencontrer. Enfin, elle se promettait de visiter les magistrats, d'employer toutes les protections possibles pour la découvrir, pour briser ses fers, si elle en était encore chargée. Voilà le seul motif qui faisait désirer à Jeannette le voyage de Paris. Quant à son mariage, comme il était de convention, arrêté, décidé dès son enfance par des parents au lit de la mort, Jeannette n'y mettait ni retard ni empêchement. Elle sentait néanmoins qu'elle aimait mieux Briceval que tout autre, et l'hymen s'offrait à ses yeux sous un aspect aimable. Briceval, de son côté, avait l'air d'agir d'après les mêmes principes. Il semblait acquitter une promesse et ne montrer ni amour ni répugnance. Ses procédés étaient honnêtes, mais des yeux plus clairvoyants que ceux de Jeannette auraient vu qu'il se résignait et qu'il était tourmenté par quelque chagrin secret. Il ne se plaignait point cependant, et son oncle, sans doute, était le seul qui fût dans sa confidence. Madame d'Héricourt, aveuglée par l'excès de son bonheur, après tant d'infortunes, croyait ou voulait croire que les jeunes gens s'adoraient. Elle faisait valoir auprès de Jeannette les moindres complaisances de Briceval, et à ce dernier, les moindres mots de Jeannette étaient interprétés comme des preuves d'amour, en sorte que ces jeunes gens s'épousèrent, persuadés qu'ils étaient amoureux fous l'un de l'autre. Ainsi se célébra cet hymen, comme tant d'autres qu'on voit souvent, assez froidement et comme une affaire de calcul et de convention. Quelques jours après, on fixa celui du départ pour Paris. Ce jour arriva, mais le vieux Jules, retenu par sa goutte, ne voulut pas accompagner sa famille. Il exigea même qu'elle partît d'avance, lui promettant d'aller la rejoindre bientôt. On le laissa donc aux soins de Bernard et d'autres domestiques intelligents, puis Madame d'Héricourt et ses deux enfants partirent pour aller habiter leur bel hôtel que la mère avait cédé à sa fille.